Sur, par rapport à politique des auteurs, et c'est pas le titre que je voulais donner, mais enfin bon.
À faire un spécial John Ford dans 15 jours, 3 semaines, après Vienne au cinéma. Voilà, donc on va retrouver quelqu'un qui a beaucoup parlé des auteurs, puisqu'il a écrit donc ce livre Poétique des auteurs, paru aux éditions des Cahiers du cinéma. Il s'agit du livre donc écrit par Jean-Claude Biette.
C'est un jeu de mots un peu commercial sur, par rapport à Politique des auteurs. Et c'est pas le titre que je voulais donner, mais enfin bon, on m'a demandé de renoncer au titre que je souhaitais. Et finalement, bon, je trouve que c'est pas mal comme ça, Poétique des auteurs. Mais enfin, je peux pas dire que ça m'emballe. Voilà. Mais c'est bien parce que ça donne un côté polémique au livre. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque où il y avait la politique des auteurs et où je pense qu'il y a nécessité aujourd'hui de faire apparaître ce qu'il y a de création poétique dans les films des auteurs. Le des auteurs n'étant, auteur n'étant pas pour moi un terme valorisant, mais un terme commun. Bon, auteur, tout le monde dit que les gens qui font des films sont des auteurs. Ça n'a pas d'intérêt particulier d'être un auteur, je pense. C'est comme ça, c'est un fait. Mais poétique, c'est employé. Bon, c'est expliqué à l'intérieur. Et puis, bon, qu'on le comprenne, qu'on le comprenne pas, c'est pas très important, puisque après tout, un titre, c'est un titre. Et c'est que poétique, c'est à la fois le contenu poétique et puis le fait de faire. Voilà. Moi, c'est le côté matériel et fabrication. Voilà.
Fabrice Barbaro ?
Oui, est-ce que ça ne rejoindrait pas la distinction faite par Pasolini entre cinéma de prose et cinéma de poésie ?
Oh, pas directement, non. Non, non. Là, pour moi, poétique, c'était un jeu de mots comme ça l'étymologie du mot poétique, qui est à la fois la vision, l'imagination et puis la fabrication. L'art personnel de quelqu'un pour mettre en forme son contenu ou ce qu'il a à dire.
Moi, j'ai eu l'impression, en lisant Poétique des auteurs, je me suis dit, ça, effectivement, ça renvoie à la politique des auteurs, donc c'est André Bazin. Et je me suis dit, à un moment donné, vous expliquez qu'un film, ça s'éprouve, en quelque sorte. Il faut éprouver un film. Vous le dites, je ne sais plus très bien à quel endroit. Et donc, c'est une expérience personnelle et qu'il faut, en fait, voir de film en film. Et pas forcément d'auteur en auteur et prendre une œuvre globale, c'est-à-dire cette idée que donnaient au départ les critiques de la Nouvelle Vague d'une œuvre d'une œuvre qui aurait une unité, un aspect globalisant comme cela, qui défendait d'ailleurs notamment Hitchcock ou Hawks. Et moi, j'ai trouvé que là où il y a une différence qui commence à poindre, c'est peut-être sur cette vision. Donc qu'avait la Nouvelle Vague de l'unité d'une œuvre, et aujourd'hui vous revenez un petit peu là-dessus, notamment sur, enfin, il y a deux cinéastes dont vous remettez en cause peut-être l'unité de l'œuvre, c'est Hitchcock et Hawks, au profit de ceux qui auraient une dualité plus dialectique portée sur l'histoire en ce qui concerne Ford et sur la conscience en ce qui concerne Lang. Et vous dites que c'est là la première révision.
Oui, c'est la première révision, mais il ne faut pas oublier que quand les cinéastes critiques de la Nouvelle Vague défendaient, ils avaient un pari à défendre contre la critique de l'époque et contre l'opinion générale de l'époque concernant les cinéastes. Et ils disaient, il y avait toujours quelque chose qui était forcé, mais qui avait une valeur polémique et de lutte, pour dire, voilà, tel cinéaste qui apparemment obéit à la commande, je ne sais pas, mettons Preminger ou Hawks ou Hitchcock, eh bien, ce sont des gens qui ont une œuvre, qui ont une idée d'ensemble et du cinéma et de, eux disaient, de la vie. Bon, ça, c'est un peu après, on peut discuter là-dessus, mais il y avait une sorte de pari sur l'idée d'ensemble et l'unité. Et je pense que maintenant, puisque c'est un fait acquis pour la plupart des gens qui voient des films, c'est pas tellement important de mettre l'accent sur l'unité, puisque l'unité, elle est acceptée même beaucoup trop aujourd'hui. Donc, il s'agissait de revenir au film même et voir de film en film si cette unité existait ou n'existait pas. Et en même temps, même c'était de dire acceptons que chez tel cinéaste, il y ait tel et tel défaut, tel et tel manque, et ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la vie organique et des films et d'un projet d'ensemble, même s'il y a des films inférieurs et moins bien, il faut l'accepter. Maintenant qu'on sait que ces auteurs sont eux-mêmes acceptés et sanctifiés, on peut accepter de dire que tel film de Hawks est d'un intérêt tout à fait mineur, comme les comédies si bémol et fa dièse, ou enfin les petites comédies de Hawks qui ne sont pas d'un intérêt, qui sont intéressantes d'un point de vue de l'écriture cinématographique, mais bon, on a les grands films pour de Hawks qui sont plus intéressants, comme Monkey Business ou Big Sky, La Captive aux yeux clairs. Bon, on peut étudier plus en profondeur ceux-là et laisser tomber les petits films de Hawks qui ne sont pas très intéressants.
Moi, je voudrais revenir d'abord sur votre parcours, parce que j'ai l'impression que par rapport au cahier, vous êtes un petit peu à part. Vous êtes venu au moment, une époque un peu charnière, où les cahiers commençaient à se transformer. Vous avez commencé, je crois, à écrire en 64 dans les cahiers.
Oui, c'est ça.
Mais vous n'étiez pas à Paris en 68.
Non.
Et vous avez échappé à toute une période de l'histoire des cahiers que moi je supportais mal dans la lecture parce que je comprenais rien, ce qu'on a appelé la période un peu maoïste, structuraliste, lacanienne.
Ben, c'est-à-dire que comme je suis revenu fin 69, je me suis trouvé en 70 au cahier où c'était justement en plein, parce que c'était peu de temps après mai 68, et j'ai arrêté d'écrire parce que l'intérêt qui se manifestait dans ce qui s'écrivait au cahier ne concernait pas directement le cinéma, mais passait à travers les sciences humaines, enfin à travers l'acquis de Lévi-Strauss, de Lacan, de Barthes, etc. Et comme moi je n'avais pas ce bagage-là et que je n'avais pas envie d'aller dans ce sens-là pour parler du cinéma, puisque j'avais le sentiment d'avoir un rapport extrêmement direct avec le cinéma et très d'un rapport assez global, et puisque j'avais déjà fait des courts-métrages. Donc je n'éprouvais aucune nécessité et je préférais me taire et ne pas écrire.
Et moi j'avais l'impression que vous avez été mis un peu dans le feu de l'action, vous avez mis le pied à l'étrier en Italie, avec des gens comme Pasolini par exemple. Et c'est un petit peu là que la rencontre s'est faite avec le cinéma, c'est-à-dire une rencontre pratique.
Non, parce que ça s'est fait à la fois de plusieurs manières, puisque j'avais commencé dans mon coin à faire un court-métrage dès 1961, et après, quand je suis arrivé en Italie, j'ai commencé un autre court-métrage très vite, et j'ai vraiment vu Pasolini, je l'ai vu beaucoup, alors que j'avais déjà commencé à tourner mon court-métrage, et... j'ai travaillé avec lui, mais j'avais été assistant stagiaire d'ailleurs sur La Chinoise de Godard. Et toutes les choses se sont faites un peu en même temps. Il n'y a pas eu de
des circonstances qui se sont mêlées.
Ça a été fait de manière très hasardeuse et impulsive comme ça, et puis des coups de chance de hasard.
Fabrice Barbaro.
Mais pourtant, vous avez croisé dans ces années-là l'itinéraire d'un cinéaste qui est très défendu par les cahiers dans leur période Mao, c'est Straub, ce que vous avez joué dans Othon. Comment ça s'est passé avec lui ?
C'est-à-dire que je l'ai rencontré à Locarno en 65 et il était venu présenter ses deux premiers films, le premier court-métrage Machor Camouf et puis son long-métrage Non Réconcilié. Et moi, ça a été le coup de foudre immédiat pour ces films-là. J'ai vraiment adoré ça immédiatement. J'ai eu aucun problème d'adaptation avec son écriture cinématographique. Pour moi, c'était l'évidence absolue. Alors, les problèmes de compréhension de l'histoire à l'intérieur, moi, je naviguais là-dedans comme un poisson dans l'eau. Et j'ai eu aucun problème d'adaptation. Et je crois que j'ai bien été le seul à l'époque. Et j'ai la personnalité de Straub et de Daniel Huillet, beaucoup fasciné, beaucoup impressionné au début. Et puis, après, quand ils ont fait le bac, je suis allé à Munich voir à la table de montage le film. Chronique d'Anna Magdalena Bach. Et puis après, ils sont venus habiter Rome et ils ont demandé aux gens qui connaissaient, qui habitaient Rome, de partir dans l'entreprise de Othon, d'après le texte de Corneille. Enfin, d'après le texte de Corneille, c'est le texte de Corneille.
Moi, ce que je voudrais dire sur la poétique des auteurs, d'abord, ce qui m'a étonnée, c'est la limpidité de l'écriture. C'est un livre, des fois, quand on voit un titre comme ça, poétique des auteurs, qui peut au départ décourager. J'ai trouvé que, en fait, bon, il s'agit d'un recueil d'articles qui sont parus au Cahier du cinéma, donc entre 65 et puis 87, en gros,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
Et il y a quand même une ordonnance, puisqu'il y a des chapitres, il y a des titres, donc je pense qu'il y a quand même une démarche. Hein. Et j'aimerais qu'on revienne peut-être sur cette démarche, sur la construction du livre. C'est-à-dire d'abord, est-ce que c'est un choix chronologique ou bien, moi j'y vois une évolution un petit peu.
C'est à la fois un choix chronologique et puis c'est un choix que j'ai fait avec Serge Toubiana, par tête de chapitre, bon, en partant du fait que on se servait un petit peu de la chronologie puisqu'on gardait pour la fin ce qui a été fait en 85 et 86, qui était la suite des chroniques mensuelles que j'écrivais au Cahier du cinéma. Et on a fait une partie auteur où j'ai gardé les textes sur ce que je considérais comme les grands auteurs, parce qu'il y a des auteurs que j'ai éliminés et il y a un certain nombre de textes que je n'ai pas mis. Et j'ai gardé les auteurs qui me tenaient le plus à cœur et les textes que je trouvais les plus intéressants sur le cinéma en général. Et puis un certain nombre de textes sur les films passés à la télévision, parce que à l'époque, au Cahier, j'ai commencé à faire des critiques sur les revisions des films à la télévision.
Qui s'appelle Les fantômes du
permanent. Fantômes du permanent.
Permanent.
Oui, oui. qui est un titre que j'avais donné pour des textes, notamment, oui, sur...
Bon, moi, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur les auteurs de A à Z, déjà, qui est la première partie, et de voir ce choix, parce qu'il est étonnant, je veux dire, justement, si on compare avec la politique des auteurs, bon, alors, il y avait, en fait, dans les années 60, il y avait comme ça deux grands courants, les MacMahoniens, et puis les Cahiers, hein. Alors, il y avait les quatre As du MacMahon, c'était Walsh, Lang,
Lozay-Preminger,
et il y avait...
J'ai jamais compris, d'ailleurs, ce que faisait Lozay là-dedans, parce que vraiment, ça n'a rien à voir...
Oui, moi non plus. Mais enfin bon, c'était assez étrange, c'est intéressant, les MacMahoniens. Et puis il y avait le choix donc des Hitchcock-Hawksiens, les Cahiers, avec notamment Hawks et Hitchcock dans la poétique des auteurs. Alors là, on trouve des auteurs qui n'étaient pas forcément mis en avant, effectivement, ni par les Cahiers, ni par les MacMahoniens, comme Todd Browning ou par exemple Alan Dwan. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce parcours et y compris sur des réserves que moi je pourrais mettre. Enfin, je sais pas, on pourrait voir avec Fabrice Barbaro. Enfin bon, déjà Todd Browning, ça me semble évident. Alors Tourneur, c'est étonnant parce que moi j'aime beaucoup Jacques Tourneur, mais c'est un cinéaste qu'on a souvent considéré avec mépris, comme une espèce de bon artisan d'Hollywood. Alors que moi, je suis d'accord, je pense que Tourneur, c'est plus que cela.
Un bon artisan, par exemple, c'est Curtis.
Michael Curtis.
Ouais. Michael Curtis est un très bon artisan, mais c'est un cinéaste qui n'a aucun intérêt, je trouve.
Alors bon, justement, ce choix de Tourneur, c'est un choix un peu nouveau par rapport au choix des MacMahoniens ou des Cahiers classiques.
Mais je dois dire que Tourneur, c'est absolument pas moi qui en ai fait la découverte, même si ça a eu beaucoup d'importance et si je l'ai beaucoup dit, mais c'est quelqu'un qui avait été découvert, ne serait-ce que par Tavernier, à l'époque où il s'occupait du Nickelodeon, et c'est un cinéaste qui était très aimé par des gens à l'époque où moi j'allais au Nickelodeon, à un ciné-club qui s'appelait Ciné Qua Non, à un certain nombre de ciné-clubs, et moi je ne marchais pas à Tourneur. C'est beaucoup plus tard que j'ai aimé Tourneur, c'est vers 72-73.
C'est curieux parce que moi Tourneur au départ ça me semblait évident, aujourd'hui j'ai peut-être pris une petite distance, mais il y a très longtemps que je n'ai pas vu des films de Tourneur.
Tourneur c'est un poète, c'est quelqu'un qui... c'est un vrai poète, c'est quelqu'un qui a une perception des choses qui ne peut pas se dire en termes d'idées, ni de concepts, ni d'idées de mise en scène, c'est insaisissable.
C'est l'impression qu'il laisse. sur l'impression ou la sensibilité qu'il a. Mais ça, je suis d'accord. Fabrice Barbaro.
Oui, pour revenir un peu à l'itinéraire personnel, nos itinéraires personnels par rapport à Tourneur, moi je dis que Tourneur, c'est quelqu'un que j'ai apprécié après Dreyer. Il me semble c'est qu'elle est, tous les deux sont vraiment des metteurs en scène du hors-champ, très attirés par l'invisible, par l'infilmable, et qui tentent justement de faire voir cet invisible. Alors donc justement, c'est pas vraiment, on peut pas parler de linéarité, c'est peu à peu comme si cet invisible venait imprégner peu à peu le champ, peu à peu l'envelopper. Mais
Non, moi j'aime bien Tourneur, mais
moi je le place aussi haut que Dreyer en tout cas.
Ah, pas moi, quand même. Pas moi. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu des films de Tourneur. Le dernier que j'ai dû revoir, c'était La Flibustière des Antiques, un film que je trouve superbe.
Oui.
Mais peut-être parce qu'en plus, on y voit une femme fort. Moi, c'est fascinant de voir une femme.
En plus, c'est une grande actrice, c'est Jean Peters, qui est une très grande actrice, pas assez connue. Oui. Et
c'est l'Indienne du Aldrich.
Et c'est la femme du pickpocket dans Fuller. Dans le port de la drogue.
Oui, le port de la drogue. Alors, la première pause musicale. Fabrice Barbaro, vous pouvez nous présenter la pause musicale?
Oui, c'est le Glittering Prelude d'Igor Stravinsky, écrit pour les 80 ans du chef d'orchestre Pierre Monteux, et c'est dirigé par Stravinsky lui-même.